Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre et c'est le temps de fêter la réforme. Fêter la réforme, c'est fêter cette grande conviction qui nous anime, à savoir que l'Évangile est essentiel et que sa découverte se fait à travers la parole, tel que le verset 25 que je viens de lire nous le rappelle. En effet, c'est le 31 octobre 1517 que Martin Luther affiché les 95 thèses à l'église de Wittenberg pour dénoncer la pratique des indulgences. C'est l'acte de naissance du protestantisme. C'est aussi le moment pour nous de nous arrêter pour revisiter l'histoire et mieux considérer l'essentiel de la bonne nouvelle. Soit ouvrir nos yeux sur les miracles dans l'histoire, c'est constructif. C'est un enseignement quant à notre cheminement aussi spirituel. Alors je vous invite ce matin à mieux découvrir les dimensions du miracle de la réforme, mais pas que. Le chemin ne s'arrête pas là. Interrogeons-nous sur ses implications aujourd'hui. Alors voilà, du miracle de la réforme hier au miracle de la parole aujourd'hui. Miracle de la réforme, d'abord. Nous sommes au XVIe siècle. Outre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est la réelle modernisation culturelle qui se fait jour. C'est Erasme qui remet à l'honneur l'étude des textes anciens. C'est Locke, qu'on connaît peu, qui ouvre la voie vers des concepts de liberté de conscience et de tolérance. Parallèlement, l'invention de l'imprimerie permettra de diffuser largement ces nouvelles idées. Et c'est par conséquent aussi la diffusion de la Bible avec ses traductions. Oui, la bonne nouvelle est proclamée largement. Et n'est-ce pas là, ici, un miracle ? Lié effectivement uniquement à l'environnement, au contexte historique. Mais poursuivons. C'est dans ce contexte qu'intervient Martin Luther. Il mène une contestation de l'intérieur de l'Église, car il a découvert le salut par la foi seule, et à la lecture, donc, approfondie de la parole, en particulier dans l'Épître aux Romains. Voilà. Saisi par cette conviction, il proteste. Le voilà qui s'exprime tout haut. Liberté d'expression oblige. Il affiche donc 95 thèses dans lesquelles il s'oppose au commerce scandaleux des indulgences. Il s'agissait de racheter son salut par un don d'argent à l'Église. En réalité, cette pratique avait pour objectif de participer à la reconstruction de la cathédrale de Rome. Cette protestation va être largement diffusée par l'imprimerie d'abord, pour se transformer en un profond mouvement de liberté en adéquation avec les nouvelles idées dont on a parlé, en adéquation avec la liberté d'expression. Voilà. Et c'est donc un terreau hyper favorable pour que la réforme puisse éclore. Le croisement, au même moment, de cet environnement, besoin de liberté d'expression, imprimerie, et puis la protestation de Luther, c'est là un miracle historique. Mais le miracle, il est plutôt et d'abord doctrinal et théologique. Oui, le miracle, ce n'est pas Luther, c'est sa découverte, la découverte qui le bouleverse. Dans son cheminement, dans son combat, il cherche uniquement son salut, par la pénitence, par la vie monacale. Or, il ne trouve pas la paix. Dans cette quête, une nuit, il découvre en romain ce verset. Le juste vivra par la foi. Ça y est, le salut n'est accordé que par la foi seule. Ce ne sont pas les bonnes œuvres, les confessions de foi, les églises, les prêtres, les pasteurs et encore moins les indulgences. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Alors il témoigne avec joie cette vérité, grand principe du protestantisme. Vérité qui trouvera son rayonnement certain auprès des hommes de ce temps. Et voici ce qu'il disait à ce propos. Nous protestons et nous témoignons publiquement. Cette parole est la seule vérité. Elle est la seule norme assurée de toute doctrine et de toute vie. Celui qui bâtit sur ce fondement subsistera. Eh bien, revenons à ce fondement dont nous parle donc Luther. Ce fondement qui est un miracle doctrinal, mais qui se décline en trois principes. Et je vous les rappelle brièvement pour comprendre les profondeurs de cette découverte. Dieu seul, l'Écriture seule, la foi seule. Dieu seul, c'est une façon de dire qu'entre Dieu et le croyant, il n'y a plus d'intermédiaire, ni prêtre, ni pasteur. Et de cette conception découle celle du sacerdoce universel. L'Écriture seule. La Réforme a proclamé la Bible comme seule autorité, comme règle de foi. La foi seule, comme principe de salut. Le salut par la foi seule, comme réponse à la grâce de Dieu, et qui s'oppose au salut par les œuvres. Ces fondements dont nous venons de parler, à savoir donc Dieu seul, l'Écriture seule, la grâce seule, nous les avons, nous aussi, intégrés, acquis. Soit nous les connaissons, mais est-ce que nous en faisons un lien avec la Réforme? En faisons-nous un lien en termes d'ailleurs de miracles? C'est vrai, 500 ans ont passé, on peut donc s'interroger. C'est pourquoi, miracle de la parole. Tiens, pour aller plus loin et plus concrètement, interrogeons-nous ensemble sur ce fameux sola scriptura, l'Écriture seule. En effet, n'y aurait-il pas de nouveaux enjeux dans la lecture de la Bible? Et en y réfléchissant, nous pourrions découvrir des menaces. Nous pourrions aussi découvrir des opportunités. Et opportunités qui pourraient alors se révéler comme un miracle. Miracle de la parole pour nous au XXIe siècle. Pour nous individuellement, dans notre lecture. Pour nous aussi, dans notre lecture partagée et communautaire. Pour éclairer notre chemin de réflexion sur l'Écriture seule, comme seule autorité dont on a déjà parlé, je vous propose trois focus. Le premier, le voici. L'expérience de Dieu caché ou l'énigme du silence. La foi est d'abord expérience. Expérience du passage de Dieu. Et comme il est dit par des rédacteurs bibliques, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Oui, on ne remarque pas la présence de Dieu. Face à cette discrétion, ce silence, qu'en est-il aujourd'hui de notre lecture de la Bible? Y aurait-il un changement majeur par rapport au temps de la Réforme? Non. Seulement, la Bible est d'abord une quête. Il ne s'agit pas d'un compte rendu explicatif. D'abord, Dieu n'est pas absent. Soyons-en certains. Mais nous sommes en sa présence seulement dans la non-immédiateté. C'est-à-dire dans notre monde moderne, nous vivons avec des questions, certes. Mais il nous faut des réponses instantanées. C'est une menace pour nous dans notre lecture, car ce schéma-là ne fonctionne pas. Effectivement, l'unité dans les lectures bibliques a pour première complexité qu'elle n'est pas de l'ordre de l'évidence, qu'il ne s'agit pas d'un savoir tout constitué, d'un mode d'emploi ou de tuto. C'est davantage une exploration dans l'espace de l'espérance chrétienne. Et comme l'exprime Elisabeth Parmentier, doyenne de la fac de théologie de Genève, Dieu se montre de dos et de passage. Ainsi, toute lecture se doit d'être consciente de ses limites. Deuxième éclairage. La tâche d'interpréter les textes. Nous reconnaissons d'abord la venue de Dieu dans l'humanité, mais la foi chrétienne est source de tension. À savoir, des humains ont écrit avec leurs limites et leurs paroles humaines, et pourtant nous y rencontrons la parole de Dieu. Non par décret, non par automatisme, mais parce que Dieu accorde au témoignage biblique la capacité de parler, et ce, malgré des textes qui rebutent. Soyons clairs, la complexité d'interprétation est une réalité. Elle peut être source de conflits, d'ailleurs, collectivement, et donc constituer une menace pour l'unité. Mais interpréter est indispensable à la vie. Les débats et les discussions, spécialité protestante, mettent à l'honneur la responsabilité de chacun dans la liberté et la tolérance. C'est donc une opportunité d'ouverture, de dialogue pour mieux comprendre le monde et ses difficultés. Cette appropriation des Écritures est alors un miracle. Dernier focus. La vérité comme relation. Je vais vous faire dans ce sens une lecture un peu raccourcie du prologue de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. En effet, il y avait la vie et cette vie était la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Ici en particulier, et globalement, la Bible dit vrai sur Dieu et sur son projet de vie, sur la grâce et sur la relation à l'humanité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par vérité ? Une vérité argumentée et prouvable. Or, affirmer que la vérité est une personne, Jésus-Christ, et une relation, est-ce que cela ne relativise pas notre certitude au salut ? Non. La Réforme a affirmé comme principe le salut par la foi. Oui, nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, de manière plus radicale, il nous faut faire l'autre partie du chemin. Faire confiance absolue, comme celle des enfants qui se savent bien aimés. Or, marcher par la foi revient alors à faire confiance à la vérité de la relation que Jésus ouvre par sa venue et sa résurrection, sans rechercher de preuves. En s'attachant à ce qui est fondateur de la vérité biblique. Pour résumer, c'est le miracle que nous réalisons aujourd'hui encore, c'est celui de l'incarnation de la parole. Pour résumer notre cheminement, Si la réforme est un miracle, et nous en sommes convaincus, il est possible pour nous aujourd'hui de vivre un nouveau miracle. La réforme est miracle avec la découverte des principes fondateurs, à savoir le salut par la foi, révélé par la parole seule. Aujourd'hui, nous poursuivons dans le même esprit notre quête en termes de nouvelles découvertes que nous pouvons considérer comme des opportunités. Opportunités. Allons même plus loin. Miracle. Miracle de la parole vécue. Surtout au regard de notre monde complexe avec des nouvelles réalités socioculturelles. Dans cette approche de la parole, il y a le mystère de Dieu et pourtant sa révélation au cœur du monde. Il y a l'exigence de son interprétation et pourtant l'enjeu d'unité. Il y a la manifestation de la vérité comme relation et personne et pourtant la résistance du monde à ce message. Résistance qui est de plus en plus effective et prégnante. Conscient de l'enjeu, que notre finalité biblique soit claire. L'amour de Dieu et son prochain. Son prochain, ici en particulier dans l'Église, pour une lecture communautaire renouvelée, élargie, et ainsi vivre le miracle de la parole lue et vécue. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage. Ta parole est Pâques. Amen.